Dans nos communautés, une émission de Christiane Hervault sur Radio Alliance Plus.
Bonjour chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue pour notre émission. Aujourd'hui, nous allons faire un petit tour au Brésil, peut-être que l'on va apprendre des choses sur le Brésil aussi, mais surtout sur Ana Vasconcelos, que je reçois aujourd'hui, qui est stagiaire en ce moment au Mas des Abeilles, le centre protestant rue de Bachas à Nîmes, qui est étudiante en théologie à l'Institut protestant de Montpellier. Et donc, il nous vient du Brésil. Oui. Voilà, bonjour Ana.
C'est ça, bonjour Christiane et bonjour à tous ceux et celles qui nous écoutent. Et tout d'abord, je voudrais dire un grand merci pour cette invitation. Je suis très heureuse d'être là. Donc, voilà, oui, effectivement, je viens du Brésil, d'une ville au nord-est du Brésil qui s'appelle Campina Grande. Et c'est vrai que parler du Brésil, c'est déjà parler d'un pays immense et d'un pays marqué par une immense diversité. Donc, bien sûr, on parle beaucoup de la biodiversité du Brésil. Et c'est vrai qu'on peut passer de la forêt amazonienne dans l'ouest du pays aux plages du nord-est ou encore aux chutes d'Iguaçu dans le sud. Donc, c'est vrai qu'il y a une variété extraordinaire, mais au Brésil, il y a aussi une grande diversité culturelle. Donc, chaque région a ses plats typiques, bien sûr, sa musique, on a plusieurs accents au Brésil. Et avec toute cette diversité, il y a aussi, évidemment, tout ce qui est commun. Et voilà, le peuple brésilien est connu par sa joie de vivre. Et c'est vrai que le Brésil est un pays qui a traversé et qui traverse encore des réalités très complexes. Et pourtant, il y a au Brésil, je dirais, une grande résilience. Et ça passe par la fête, par la musique, par le sport. Justement, c'est cette résilience qui a cette façon de s'adapter et de surmonter les épreuves en restant joyeux. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est, voilà, que je garde précieusement.
Oui, ça caractérise bien le Brésil. Vous avez très, très bien expliqué. Et je crois que, en tout cas, on en a pas mal entendu parler du Brésil, évidemment, parce qu'il y a eu beaucoup d'événements à la fois politique et puis écologique et puis beaucoup de choses. Et puis cette notion de la fête et de l'amour de la vie, je dirais, qui transparaît beaucoup avec les Brésiliens.
Absolument.
Et donc, nous sommes très heureux d'avoir une Brésilienne en France maintenant. Et alors, la question qu'on se pose, c'est comment vous êtes arrivée là, en France? Pourquoi vous êtes venue rejoindre la France? Comment vous l'avez connue? Notre France, petite France à côté du Brésil.
Oui, oui, en fait, j'étais toujours intéressée par la France. Et je dirais que mon contact premier était par les arts, surtout par la musique, le cinéma, bien sûr. Et c'était en 2006 que je suis venue en France pour la première fois avec mon mari. Nous sommes allés à Paris et nous y sommes revenus en 2008. Donc, c'est vrai que c'était un rêve réalisé. J'étais émerveillée. J'ai beaucoup aimé. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, je n'aurais jamais imaginé que j'y vivrais un jour. C'était complètement...
dans les rêves.
Oui, exactement.
Lointain.
Et c'était bien plus tard, en 2015, et à cette époque, je vivais à São Paulo avec mon mari et nos deux enfants, et je travaillais dans l'enseignement du portugais. Portugais, parce que ça correspond à ma première formation, puisque j'ai fait des études de lettres. Donc, et là, à ce moment, c'était mon mari qui a eu la possibilité de venir en France pour son travail. Donc, c'était pas une décision facile, évidemment, même si nous voulions tous les deux faire ce changement, mais nos enfants étaient encore très jeunes. Ils avaient 7 et 10 ans. Et pour moi, particulièrement, cela voulait dire quitter mon travail. Donc, voilà, j'étais dans l'enseignement du portugais et c'est un grand changement. Même si on a le désir de le faire, il faut le prendre sérieusement. Voilà. En plus, quand
et
on
pour
est
les
en
enfants,
famille.
Il fallait aussi apprendre la langue.
Exactement.
Ça faisait beaucoup de choses, beaucoup de changements.
Ouais. Exactement. Et surtout parce que moi et les enfants, justement, on ne parlait pas le français. Donc, c'était toute une découverte, un apprentissage. Donc, on était dans la joie d'être ici parce que ça nous a beaucoup plu. J'aime bien le sud de la France. On était d'abord à Aix-en-Provence et puis à Montpellier.
Ah, d'accord. Vous êtes allée directement. Votre mari, il était donc pour son travail. C'était
oui,
c'était
dans l'enseignement aussi. Oui, il est professeur.
Très bien.
Ouais. Ouais. Et donc, ça nous a fait un vrai changement. Et même s'il y avait, bien sûr, des défis, nous avons décidé de rester en France.
D'accord.
Et donc, ça veut dire que cet été, voilà, ça sera
10 ans maintenant.
Ça fait 10 ans.
Oui,
bientôt voilà. 10 ans. Voilà.
Voilà, cet été. D'accord, très bien.
Donc,
très, très bien.
Et bien sûr, avec toute cette période d'adaptation, c'était la joie de la découverte aussi de notre culture, bien sûr, et aussi de découvrir tous les liens, en fait, qu'il pourrait y avoir entre le Brésil et la France. Donc, ça, c'est beau aussi. Voilà. Mmh. Et en plus, je pense que ce temps, justement, parce que j'ai dû quitter mon travail, et là, à ce moment en France, c'était vraiment important pour moi. Parce que ça m'a permis de réfléchir à ce que je voulais faire pour la suite.
Oui, d'accord.
Justement.
Vous étiez déjà engagée, par exemple, en lien avec une église, une église de type protestant ou peut-être évangélique au Brésil déjà, et vous faisiez déjà partie d'une paroisse. Il y avait déjà un engagement dans la foi pour vous. Déjà au Brésil.
Oui.
D'accord.
Oui, absolument. Et en fait, moi, j'ai grandi dans une famille chrétienne. Et en fait, la foi protestante dans ma famille, ça remonte à mon arrière-grand-mère qui s'est convertie en lisant la Bible.
Très bien.
Donc,
formidable.
Ouais, voilà. Donc, du coup, je suis née dans cette famille tenait beaucoup à la foi chrétienne, à la vie dans l'Église. Donc je suis née dans une famille très engagée, dans une Église, pardon, évangélique, effectivement, au Brésil. Et pour moi, c'était naturel de parler de la foi à la maison. Et très tôt, j'ai commencé à lire la Bible. Moi-même, et j'étais fascinée par les histoires et par tous les personnages. Ça m'a beaucoup intéressée. Et je participais aussi de manière active à la vie de cette communauté par le chant, parce que j'adore chanter, à l'école biblique avec les enfants et puis plus tard avec les jeunes. Donc, j'étais toujours dans cet engagement. Et j'ai demandé le baptême à l'âge de 15 ans. Et en fait, c'est à partir de ce moment, je pense que j'ai vécu un moment important et je dirais même décisif, où je me suis très sérieusement posé la question de savoir si j'étais chrétienne, simplement parce que j'avais reçu cet héritage, ou bien si je choisissais moi-même d'être disciple du Christ. Et je crois que ce moment, qui était en effet un cheminement de plusieurs années, m'a permis de, tout en gardant précieusement beaucoup de ce que j'avais appris avec mes parents, de continuer et poursuivre mon propre chemin spirituel à la recherche d'une théologie plus ouverte. Parce que j'avais beaucoup de questionnements, j'avais des doutes et des moments de réflexion dans la foi qui, pour moi, c'était important de prendre ce pas par moi-même dans mes décisions théologiques aussi.
Mm-hmm. Ah oui, c'est très intéressant ce que vous dites, parce que c'est vrai que quand on est dans une famille religieuse, enfin, qui a à cœur de transmettre aussi ce qu'on a reçu, puis quand on vit un peu... toujours dans une paroisse, on se rend pas compte, en fait, peut-être de tout ce qu'il y a autour, et on se dit, bon, est-ce que vraiment, voilà, pour qui je le fais, pour qui je vis,
hein, exactement.
Voilà, d'accord.
Exactement.
Et alors, en France, ça s'est reposé aussi, ces questions-là étaient acquises, ou est-ce que ce sont... vous êtes re-questionné ici en France, peut-être d'une autre manière, ou avec d'autres paroisses, peut-être. Vous avez connu d'autres paroisses, peut-être,
oui,
du coup.
Oui, absolument. En venant en France, justement, j'ai pu poursuivre cette réflexion, mais effectivement autrement. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, j'avais... ce moment de penser à ce que je voulais faire, parce que j'avais quitté mon travail. Et effectivement, j'ai commencé à réfléchir beaucoup à mon avenir. Et en réalité, j'ai réalisé que j'avais toujours ce désir de servir dans un ministère. J'étais toujours engagée dans l'Église. Et en fait, ce désir était présent depuis mon adolescence. Donc, c'est vrai que c'est un long chemin jusqu'à arriver à ce moment. Parce que justement à l'époque, après finir mes études de lettres, je suis partie faire une formation théologique aux États-Unis. Donc, en fait, en venant en France, ça m'a réouvert cette porte, ce chemin vers une possibilité de m'engager dans un ministère. Mais à l'époque, je faisais partie d'une église où les femmes ne pouvaient pas devenir pasteurs. Donc, il y avait que des hommes pasteurs et donc je ne pouvais pas me projeter en tant que pasteur. C'était vraiment difficile ces années-là.
Aussi?
Non, au Brésil, justement.
Et
quand je suis venue en France, en plus de voir qu'il y avait des femmes pasteurs, ça m'a complètement ouvert les yeux pour quelque chose de possible dans ce sens. Et aussi, j'avais une quête théologique aussi. Qui venait justement de ce temps-là de mon adolescence, mais je cherchais une théologie plus compatible avec cheminement personnel, mes visions. Et c'était en arrivant en France, justement, que en 2022, j'ai décidé de reprendre mes études de théologie, cette fois-ci à Montpellier, à l'Institut protestant de théologie. Et je me souviens que quand j'ai commencé ces études, j'avais déjà à cœur ce projet.
Il y avait pastoral. Cette confirmation.
Voilà,
ça a confirmé votre...
C'était vraiment quelque chose que j'étais très heureuse de le faire, parce que ça me ouvrait une opportunité qui était peut-être endormi quelque part, de ce désir qui était là, mais qui était un peu endormi. Et ça m'a permis justement de reprendre mes études. Donc, j'ai fait d'abord la licence en théologie. Donc, ça, je l'ai fait en 2 ans. Et ensuite, j'ai fait le master 1. Où j'ai écrit un mémoire sur la notion du corps du Christ chez Dietrich Bonhoeffer. Et cette année, je suis étudiante en Master 2, Église-Société, en formation pastorale. Donc, c'est pour moi, maintenant, c'est un parcours de 4 ans.
D'accord. Alors, on va s'arrêter là juste quelques minutes pour écouter un peu de musique que vous avez choisie. Et vous allez me dire ce que vous avez choisi, parce que c'est en portugais. Alors, mon accent portugais serait vraiment pas terrible. Donc, vous allez nous dire pourquoi aussi vous avez choisi cette chanson.
Oui, j'ai choisi cette chanson. En portugais, elle s'appelle « Águas de Março ». Et j'ai choisi cette chanson d'abord parce que je l'aime énormément. Elle est considérée par beaucoup comme la plus belle chanson composée au Brésil. Et en fait, elle a été traduite poétiquement, je dirais, parce que c'est le chant lexical, il est bien propre au contexte brésilien, mais elle était traduite et interprétée en France par Georges Moustaki. Donc, c'est une chanson qui a été composée en 1973 et par Tom Jobim. Et je l'aime aussi dans cette version parce qu'il chante avec Elis Regina. C'est une des plus belles voix qu'on a eues au Brésil. Et c'est une chanson qui parle, voilà, à partir des images, des objets du quotidien, parle de quelque chose qui est bien universel. Ça parle de cycle de la vie, des eaux des masses, des pluies des masses, qui est à cette époque ferme l'été, c'est l'achèvement de l'été. Et la dernière phrase, c'est « Ce sont les eaux des masses qui ferment l'été, c'est la promesse de vie dans ton cœur. » Donc, il y a à la fois cette réalité quotidienne, pas toujours facile, mais il y a toujours la promesse de vie, l'espérance.
Merci beaucoup. C'est très, très intéressant de savoir pourquoi vous l'avez choisi. Alors, nous allons l'écouter, cette chanson qui n'est pas de Georges Moustaki, mais de deux Portugais, ouais, interprétée par deux Portugais, et donc brésilien, brésilienne, puisqu'il y a un homme et une femme. Ouais. Et puis, nous revenons juste après pour continuer notre conversation et pour savoir ce que vous faites aussi au Mas des Abeilles. Mmh. Qu'est-ce qui s'y passe avec vous et pour vous dans votre stage ?
É o fim do caminho, é o resto de toco, é um pouco sozinho, é um caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o laço, é o anzol, é peroba do campo,
é o pau da madeira,
caindo a candeia,
é uma tita pereira,
é madeira de vento,
da ribanceira,
é um mistério profundo,
é o queira ou não queira,
é o vento ventando, é o fim da ladeira, é a viga, é o vão, festa da comieira,
é a chuva chovendo, é conversa ribeira das águas de março, é o fim da canseira,
é o pé, é o chão,
é a mastradeira,
passarinho na mão,
pedra de atiradeira,
é uma ave no céu,
é uma ave no chão,
é um regato, é uma fonte,
é um pedaço de pão,
é o fundo do poço, é o fim do caminho, no rosto o desgosto, é um pouco sozinho, é um estrepe,
é um prego,
é uma ponta,
é um ponto,
é um pingo,
pingando,
é uma conta,
é um conto,
é um peixe, é um gesto,
é uma pata brilhando,
é a luz da manhã,
é o tijolo chegando,
é a lenha, é o dia, é o fim da picada, é a garrafa de cana, o estilhaço na estrada,
é o projeto da casa, é o corpo na cama, é o carro guisado, é a lama, é a lama,
é um passo,
é uma ponte,
é um sapo,
é uma rã,
é um resto
de mato,
na luz
da manhã,
são as águas de março fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração.
Cobra é um pau,
é João,
é José,
é um espinho,
na mão,
é um corte,
no pé, são as águas de março, fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração.
É pau,
é pedra,
é o fim
do caminho,
é um resto
de toco,
é um pouco
sozinho. É um passo, é uma ponte,
é um sapo, é uma rã,
é um belo horizonte,
é uma febre terçã.
São as águas de março, fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. Pau,
pedra,
vinho, resto,
pouco,
ovo,
vinho,
agro,
hidro,
ida,
ol,
oite,
forte,
aço,
sol.
São as águas de março, fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração.
Pá,
pá, da, bá, pá, de baziza, zá, zá, ziza, azá, na, nha, nha, andande, de, bandande, de.
Vous êtes bien sur Radio Alliance Plus, vous nous écoutez sur le 103.2. Peut-être vous pouvez nous écouter aussi en DAB+, et puis écouter tous nos podcasts qui sont sur radioallianceplus.fr. Aujourd'hui, nous sommes avec Anna Vasconcelos, qui est stagiaire brésilienne, et qui est stagiaire étudiante en théologie pour sa dernière année, au Mas des Abeilles. Et donc, elle nous a expliqué son parcours jusqu'à son engagement dans ses études. Et puis, eh bien, qu'est-ce qui se passe à ce Mas des Abeilles pour vous? Qu'est-ce que vous pouvez y faire? Vous avez commencé en septembre ou octobre, quelque chose comme ça?
Oui, c'était au mois de septembre. Oui, c'est une vraie joie pour moi d'être à Nîmes pour ce temps de stage. C'est une église vivante, très accueillante. Donc, le stage se passe vraiment très bien. Et j'apprends énormément et je découvre le métier de pasteur. Et en même temps, je ressens que ma connaissance de l'Église protestante unie s'élargit. Donc, ça, c'est important pour moi aussi. Et je vis tout cela dans un cadre vraiment bienveillant. Et j'en suis reconnaissante. Et en fait, pour moi, une chose très fondamentale dans ce temps des stages, c'est de rencontrer les personnes. Déjà, parce que je pense que tout passe par là, finalement. Et c'est beau et ça me touche de vivre justement cette ouverture et de me sentir pleinement accueillie. Et donc, le premier semestre du stage, c'était un temps d'observation active. Donc, avec Ticia, j'ai pu découvrir les temps de culte au Mas des Abeilles et aussi de temps de culte commun avec l'ensemble des paroisses à Nîmes. Et j'ai pu découvrir aussi différentes activités de l'Église, comme par exemple le groupe des jeunes actifs qui s'appelle Amis Chemin, les projets du comité interreligieux de Nîmes, qui réunit différents représentants religieux et dont Ticia fait partie. Et j'ai participé à toutes les réunions de préparation et aux séances catéchétiques au Mas des Abeilles. Et pour moi, c'est précieux parce qu'il y a toute une équipe de personnes très motivées. Et les séances sont dynamiques, donc j'apprends énormément. Et j'aime voir comment chaque séance s'est construite par ce travail, je dirais, collectif, où le charisme de chacun est pris en compte. Et bien sûr, c'est une joie de faire connaissance avec les enfants aussi, de voir qu'ils sont curieux, qu'ils ont plein de choses à dire, des questions, et surtout qu'ils sont tout simplement contents d'être là. Donc, c'est vraiment super. Et j'ai pu aussi participer à des réunions du conseil presbytéral de Nîmes, ainsi que du conseil de paroisse au Mas des Abeilles. Et cela m'apporte beaucoup, en fait, parce que ça m'apporte d'apprentissage sur l'organisation de l'Église. Justement, c'est un aspect très important. Je dirais aussi qu'un autre élément porteur de mon stage, c'est qu'il me permet de faire connaissance et d'échanger avec les autres pasteurs qui sont à Nîmes. Donc, comme il y a une équipe pastorale qui travaille en collaboration et qui s'y réunit régulièrement, voilà, je bénéficie de ce contact avec eux. Mm-hmm. Et donc, la deuxième partie du stage, ça sera plus pratique. Donc, j'ai déjà présidé un culte, je vais présider un autre bientôt.
Voilà. Donc, vous allez vous lancer dans la pratique. Parce que donc, si j'ai bien compris, votre but est bien confirmé de devenir pasteur, d'être pasteur en France.
Oui, c'est ça. D'accord. Donc, ça, c'est mon projet.
D'accord, très bien. Donc, eh bien, nous allons bien penser à vous. Là, vous terminez le stage. Et puis après, les études sont vraiment terminées.
Oui.
Et vous allez avoir une proposition. Voilà.
Oui.
Voilà. Mais votre mari travaille toujours à Aix-en-Provence?
Non, à Montpellier.
Il est à Montpellier. Ouais. D'accord. Ouais. Il sera d'accord pour partir dans une autre ville si jamais vous êtes... demander dans le nord de la France, par exemple?
Oui, voilà, il y a déjà une première étape, qui c'est, voilà, prochainement, je rencontrerai la commission du ministère. Donc, ça se fait en fait par étape. Donc, je serai déjà, si je peux, entrer dans ce temps qu'on appelle le proposanat. Et c'est ensuite que voilà, tout se déroulera, donc on verra pour la suite.
Et votre mari est bien content de ce chemin-là?
Oui, il est très content.
Il est partenaire?
Oui, absolument, absolument.
Et vos enfants sont plus grands maintenant? Ils sont toujours en France avec vous aussi?
Oui, ils sont toujours en France, ils sont à Montpellier avec nous. Et c'est Gabriel qui a 20 ans et Nicole qui a 17 ans.
D'accord. Alors, c'est bien. Donc, une bonne intégration pour tout le monde.
Ouais.
Et puis, un avenir tout plein de joie qui s'ouvre devant vous, Anna.
Oui. Merci
en
beaucoup.
En tout cas, nous sommes très contents de vous avoir ici à Nîmes comme stagiaire.
Merci
et
beaucoup.
Et puis, on va bien profiter de vous aussi.
Merci
dans les deux
beaucoup,
sens.
Christiane, voilà. Absolument.
Merci, Anna, d'être venue à Radio Alliance Plus pour nous parler de vous et de votre... futur ministère. Alors bonne chance
pour
tout.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.